Bon, on va se remettre au travail. Donc, merci à vous. Donc, nous allons passer à une conférence à deux voix avec Sophie Boutillier et Patrick Matagne. Donc, le titre de la conférence est « Une histoire asynchrone de l'économie et de l'écologie et de leurs passeurs ». Donc, Madame Boutillier, vous êtes maître de conférence habilitée à diriger des recherches en économie à l'Université de Littoral Côte d'Opale, Lille-Nord de France, et docteur en sociologie, chercheur au CLERCE, UMR, CNRS 2019. Vous êtes directrice du master Stratégie d'innovation et dynamique entrepreneuriale. Vous êtes coéditrice des revues Innovation, Journal of Innovation Economics et Marché et Organisation. Vous êtes vice-présidente du réseau de recherche sur l'innovation. Vos travaux de recherche portent principalement sur l'étude de l'innovation et du progrès technique sur les plans théoriques et empiriques et sur l'étude de la question environnementale par les économistes depuis la première révolution industrielle. Je remercie Patrick Matagne d'avoir invité Madame Boutillier. C'est la première fois que nous vous écoutons à l'espace Mendès France. Vous êtes la bienvenue. Donc, conférence à deux voix. À tout à l'heure à tous les deux.
Eh bien, merci beaucoup et puis merci pour votre invitation. Donc, nous avons conjugué nos forces pour vous présenter donc, cette conférence qui porte en définitive donc, sur... on va dire le développement décalé entre l'économie, donc en tant que science, hein, ensemble de concepts, et l'écologie également, donc en tant que discipline scientifique, et leurs passeurs, c'est-à-dire comment un certain nombre d'économistes ont contribué au développement d'une pensée environnementale, au développement de l'écologie, et inversement. Alors, pour cela... quelques éléments, bien sûr, de présentation. Comme on va pouvoir le constater dans la suite de notre présentation, l'économie et l'écologie ont pour particularité d'avoir la même étymologie, que je présenterai par la suite, et pourtant, ce sont deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Alors, quels sont les personnages que nous avons réunis sur cette diapositive ? Donc, ici, le représentant de l'économie, c'est-à-dire avec Adam Smith, que Patrick Matagne a déjà évoqué tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, deux figures emblématiques du développement, de la naissance de l'écologie, hein, que sont Ernst Haeckel et...
Haeckel. Voilà.
Je prononce mal.
Ouais. Oui, c'est allemand. Ernst Haeckel, oui, effectivement, qui a inventé le néologisme écologie. Et puis en bas, Eugène Warming, qui est l'auteur du premier traité d'écologie, publié dans différentes langues entre 1895 et 1909.
Très bien, merci. Donc ce sera toujours deux voix comme ça, l'économie et l'écologie. Comme ça, on est sûr de ne pas dire de bêtises. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en définitive, une centaine d'années séparent la naissance, donc, de l'économie en tant que discipline scientifique, hein, qu'on a ici matérialisé avec Adam Smith, et puis l'écologie en tant que discipline scientifique qu'on a donc matérialisé avec ces deux économistes. Hein, ce que j'ai résumé sur cette problématique. Et donc tout l'objet de cette présentation visera peut-être par rapport au point de vue de l'économiste à chercher à expliquer pourquoi ce décalage ? Et ceci parce que, comme on va pouvoir le constater au cours de cette présentation, la pollution n'est pas une invention du 19e siècle, ni même du 18e siècle. La pollution a toujours existé sous des formes différentes. On reviendra sur ce point dans la suite de notre présentation. Et pourtant... l'économie qui se constitue donc à la fin du XVIIIe siècle, donc avec la publication en 1776 donc de l'ouvrage phare d'Adam Smith, hein, La richesse des nations, postule qu'il n'y a pas, disons, de limite naturelle à la croissance économique et qu'en définitive, tout repose sur une bonne organisation de l'économie. Hein. Donc pour produire des richesses, il faut produire une bonne organisation qui repose sur le plan macroéconomique sur le marché et sur le plan microéconomique sur l'organisation du travail. Pourtant, et ça va être donc l'objet de cette présentation, un certain nombre d'économistes vont progressivement, essentiellement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, produire, on peut l'appeler, une pensée dissidente par rapport au modèle de l'économie de base, qui se positionnera, disons, dans une position contestataire par rapport donc, à ce modèle reposant sur le marché. Et donc, par rapport à ça, on va avoir petit à petit la naissance d'une pensée économique qui va remettre en cause l'ordre du marché, hein, puisque les économistes du XVIIIe siècle présentent le marché, l'organisation du marché comme étant la seule permettant d'avoir un développement économique efficace. Et eux, au contraire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on va avoir des économistes contestataires de cet ordre basé sur le marché. Donc, pour cela, nous allons revenir sur, entre guillemets, les conditions de naissance de ces deux disciplines que sont l'économie et l'écologie. Et concernant l'économie, et ça va être un petit peu le fil directeur de cette présentation, je reviendrai sur les travaux donc, d'un économiste que tout le monde connaît plus ou moins, même si on n'a pas fait d'économie, qui est Joseph Schumpeter, qui, dans un ouvrage qui a été publié après sa mort, « Histoire de l'analyse économique », s'interroge précisément sur la définition de l'économie. Et il définit l'économie comme étant une science, une connaissance outillée. Et en quelque sorte, il considère que l'économie n'apporte pas, je dirais, un corpus de connaissances objectives permettant de comprendre le fonctionnement de l'économie, mais il considère davantage que l'économie est la science des affaires, au regard donc du fait qu'un certain nombre d'économistes ont été ou sont des hommes d'affaires, et que au regard donc d'une pensée qui se veut scientifique, les économistes ont essentiellement cherché à défendre leurs intérêts. Et en ce sens, la pensée de Joseph Schumpeter est très intéressante, puisqu'elle le conduit plutôt à montrer comment le développement de la pensée économique a en fait accompagné le développement de l'économie capitaliste et le développement donc de l'activité des affaires. Hein, donc c'est pour cela aussi où il montre comment l'économie s'impose en tant que discipline scientifique au fur et à mesure que la société change et que le modèle de l'homme d'affaires s'impose comme le modèle de la réussite sociale. Donc pour cela, nous allons procéder en deux temps. Donc nous allons nous focaliser essentiellement sur les écrits des économistes, des géographes, des naturalistes, donc d'un côté l'économie, de l'autre l'écologie, donc en replaçant ces écrits dans leur contexte économique, dans leur contexte historique. Donc pour cela, d'abord, nous allons revenir sur un certain nombre de définitions élémentaires. Donc comment définit-on une science ? Donc une science, on se base par rapport à ça, hein, sur les travaux de Kuhn, c'est un ensemble de concepts, de théories, de discours qui considèrent comme admis, hein, une représentation du monde, et par rapport à cela, hein, vous avez un ensemble de concepts, hein, qui valident cette représentation du monde. Bien sûr, ce n'est pas la vérité révélée, et cela suppose bien sûr des conflits, des rapports de force entre des personnes qui professent des idées ou des théories différentes. Par rapport à cela, donc, nous avons mis l'accent sur le processus d'institutionnalisation donc, de la discipline scientifique, c'est-à-dire à partir du moment où une discipline scientifique est reconnue en tant que telle par ses pairs, hein, c'est-à-dire à partir du moment où des professeurs vont enseigner cette discipline dans les universités. Par exemple, si nous prenons le cas d'Adam Smith que j'ai évoqué tout à l'heure, il a d'abord été professeur de morale à l'université d'Édimbourg, et puis, enfin, après pas mal de péripéties, il est devenu professeur d'économie. Par rapport à cela, il y a aussi donc un certain nombre de publications. La richesse des nations en 1776 hein, est reconnue par les historiens de la pensée économique comme étant l'ouvrage fondateur de la théorie économique. Et puis, progressivement, on va aussi avoir la publication de revues, hein, que ce soit donc en économie ou en écologie. Tout à l'heure, j'ai fait référence au fait que l'économie et l'écologie avaient la même étymologie. Une étymologie, bien sûr, que l'on doit à la Grèce ancienne, enfin en tout cas pour l'économie, hein, puisque le premier ouvrage d'économie qui s'appelle justement l'économique est le fait donc d'un philosophe grec Xénophon qui publie donc au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc un ouvrage qui porte son nom, et Oikos, donc c'est le foyer, en grec, et nomos, c'est la loi. Donc, en règle, d'une façon un petit peu résumée, l'économie, c'est le management, l'organisation du foyer, de la cellule familiale. Et sans doute que Patrick reviendra sur l'étymologie de l'économie, mais en définitive, hein, l'écologie a la même racine, puisque nomos, hein, la loi, la règle en grec, ou logos, le discours, hein, on en revient donc à une racine qui est identique. Autre point important, qu'est-ce que la pollution ? On a quand même beaucoup de mal à définir la pollution. Nous avons adopté une définition, disons, simpliste, voire simpliste, en disant que c'est l'ensemble donc, des nuisances chimiques ou organiques provoquées par l'activité humaine et qui vont donc entraîner une dégradation de la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Et donc, dans ces conditions, remettre en cause le bien-être des populations. Donc, par rapport à ce préambule assez long, nous allons procéder donc en deux temps. Donc, dans un premier temps, nous allons revenir sur les fondements de l'écologie et de l'économie, donc dans un monde pollué. Hein, c'est un point sur lequel nous allons insister. Puis ensuite, donc, présenter ces passeurs, c'est-à-dire d'un côté des économistes qui vont contribuer à faire avancer la cause environnementale et inversement des naturalistes ou des géographes essentiellement, voire des botanistes et des biologistes qui vont contribuer à la fin du 19e siècle à s'intéresser, disons, aux problèmes environnementaux sous la vocable, l'optique économique. Donc, premier point par rapport à cela, naissance donc des sciences économie et écologie dans un environnement pollué. Hein. Donc, l'une des idées forces que nous défendons, c'est qu'il n'y a jamais eu, disons, d'âge d'or d'un monde sans pollution, tout en considérant que il ne faut pas voir les choses d'un point de vue absolu, mais d'un point de vue relatif, hein, c'est-à-dire confronter les problèmes environnementaux auxquels les populations humaines ont été confrontées au regard des technologies et des savoirs que ces populations étaient en état de maîtriser. Donc, pas d'âge d'or, hein, d'une espèce de bon sauvage qui vivait dans un monde où tout était à portée de main sans difficulté et sans problème. Et cela, disons, cet intérêt, hein, pour l'histoire environnementale est relativement récente. Patrick l'a mis l'accent aussi tout à l'heure autour de la problématique du développement durable sur les années 60. Les années 1960, qui sont véritablement une période où la, disons, la demande sociale pour la cause environnementale, disons, se structure. Et par rapport à cela, c'est le début aussi d'une réflexion sur l'histoire environnementale. En France, par exemple, c'est la revue des Annales qui, dans les années 70, va publier un article qui est resté, qui est célèbre, hein, d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur l'histoire du climat. Et plus généralement, depuis, je dirais, surtout les années 90-2000, il y a eu un ensemble de travaux très importants et très intéressants sur l'histoire de la pollution industrielle, donc, qui ne date pas de la révolution industrielle, mais qui est bien antérieure. On a mis l'accent sur la période du Moyen-Âge, mais dès l'Antiquité, des problèmes, je dirais, comparables se posaient en matière d'approvisionnement en eau potable, évacuation des eaux usées, qui débouche sur un certain nombre de pathologies, de grandes épidémies qui ponctuent l'histoire de l'humanité. Autre problème important, ce sont les activités artisanales et manufacturières qui se concentrent pendant le Moyen-Âge ou également pendant l'Antiquité dans les centres urbains. C'est le cas donc des abattoirs, des tanneries, de la fabrication d'explosifs. Mais par rapport à cela, ce qui est aussi très intéressant, c'est de noter que il existait au Moyen-Âge, et en gros, par exemple, si on prend le cas de la France, mais c'est le cas aussi de l'Angleterre, une législation, une réglementation environnementale. Par exemple, là, je fais référence à l'activité des abattoirs, des tanneries, etc. Il y avait une véritable gestion des cours d'eau. C'est-à-dire que les activités, on ne pouvait pas, par exemple, laver son linge là où on traitait les pots. L'organisation de la rivière était réglementée. De même, on n'avait pas le droit de jeter dans les villes du Moyen-Âge ces ordures n'importe où. Il existait des amendes et une réglementation. Par exemple aussi, si on prend le cas de Paris, à la fin du XVIIIe siècle, une question centrale va intéresser les médecins et les hygiénistes, c'est la question de l'emplacement des cimetières qui va être source d'une pollution importante. Donc, la pollution au sens où elle va entraîner une dégradation donc, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air et de la qualité des sols, et donc en cela nuire au bien-être des populations, donc n'est pas une question récente, c'est même, je dirais, une interrogation, une problématique permanente de l'histoire de l'humanité, et peut-être qu'on pourrait aussi revenir sur bien avant dans l'histoire, puisque un certain nombre d'archéologues, par exemple, mettent l'accent sur explique la disparition d'un certain nombre de civilisations suite justement à un déséquilibre entre le développement économique de ces civilisations et les ressources naturelles qu'elles avaient à leur disposition. En revanche, ce qui change fondamentalement avec donc, la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, c'est que la pollution devient une pollution industrielle. On remplace le bois par le charbon et c'est donc un ensemble de nuisances différentes qui vont contribuer à détériorer les conditions de vie des populations. Donc, compte tenu de ce contexte historique que j'ai ici brossé un peu à la manière d'un impressionniste, c'est-à-dire à grands traits, puisqu'on a allègrement enjambé les siècles, eh bien, on va procéder un petit peu de la même façon pour faire l'histoire donc, de l'économie en tant que discipline scientifique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie qui se structure en tant que discipline scientifique à la fin du XVIIIe siècle, donc avec la publication de l'ouvrage d'Adam Smith, La richesse des nations. Bien sûr, l'économie, la réflexion de l'économie en tant que discipline scientifique, hein, remonte à l'Antiquité grecque, mais c'est véritablement donc à partir de la fin du XVIIIe siècle que cette discipline se structure sur le plan scientifique, hein, puisque Adam Smith sera le premier, ou en tout cas l'un des premiers à l'enseigner. Donc, quelle est la problématique, quelle est la question à laquelle les économistes donc, de la fin du XVIIIe siècle cherchent à répondre? Donc, quelle est la recette de la richesse, hein? Comment avoir une économie prospère? Donc, comme je l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, pour Adam Smith, la recette est relativement simple, hein? Donc, elle repose sur le plan macroéconomique, sur le commerce, et en particulier donc sur le commerce international. Donc, si vous ne pouvez pas produire au niveau national les denrées dont vous avez besoin, vous allez bien sûr les acheter à l'extérieur. Et puis, de l'autre côté, pour produire des richesses de manière efficace, il faut de bonnes entreprises, hein, d'où la théorie donc, de la division du travail que va développer Adam Smith. Bon, il n'est pas bien sûr le seul auteur de cette théorie, puisque Diderot et d'Alembert, dans l'encyclopédie, consacrent également donc, un chapitre à la division du travail dans la manufacture. Mais en gros, pour caricaturer les choses, il n'y a pas pour Adam Smith de limite, on ne va pas parler de croissance ou de développement économique parce que ces termes n'existent pas à l'époque. Il n'y a pas de limite à la richesse des nations, enfin, jusqu'à un certain point, hein, parce que c'est un petit peu plus complexe dans la mesure où Smith n'est pas vraiment un optimiste parce que il considère que à un moment ou à un autre, les choses vont s'arrêter. Hein, c'est-à-dire que il y aura en quelque sorte une disparition des opportunités d'investissement. Hein, mais cet arrêt de la croissance, si on peut utiliser ce terme moderne, ne repose pas sur, disons, des questions environnementales. Ce sont véritablement les ressorts économiques du développement qui vont en quelque sorte être grippés, mais non parce qu'on va être dans l'incapacité, disons, de s'approvisionner en charbon, en bois ou dans toutes sortes de matières premières. Hein, donc c'est un raisonnement qui est un petit peu aussi ambigu. Donc en France, ce sont surtout les physiocrates, hein, donc un autre courant fondateur de l'économie qui va se développer. Étymologiquement, donc, la physiocratie, c'est le pouvoir de la nature. Les physiocrates, qui se nomment pas physiocrates, hein, mais économistes, hein, nous sommes les économistes, et pour eux, donc, le développement de l'économie repose, donc, comme pour Adam Smith, sur le marché, sur le libre-échange, mais sur l'agriculture. C'est l'agriculture qui produit des richesses, hein, c'est la métaphore du grain de blé, hein, puisque vous plantez un grain et vous obtenez un épi, hein, sur lequel il y a plusieurs grains de blé. Et pour les physiocrates, il n'y a qu'une classe sociale productrice de richesses, c'est la classe des agriculteurs. Les industriels, les commerçants, les artisans appartiennent, donc, si on se réfère au vocabulaire des physiocrates, à la classe stérile. Mais de toute façon, d'une certaine façon, pour les physiocrates, l'agriculture doit être organisée de manière efficace sur la base de grandes exploitations, en gros sur la base du modèle industriel prôné par les classiques. Donc, cette pensée libérale va se développer au cours du XIXe siècle, avec notamment donc, en France l'un de ses principaux représentants, Jean-Baptiste Say, qui est donc à la fois, si on revient aussi à ce que disait Schumpeter tout à l'heure, c'est-à-dire l'économie comme étant la science des affaires, eh bien, Jean-Baptiste Say est à la fois un homme d'affaires, un journaliste, il a été un petit peu journaliste aussi, et puis un professeur un professeur d'université. Donc, il reprend les travaux d'Adam Smith qu'il cherche à populariser en France. Donc, il défend l'idée de marché. Mais pour lui, la richesse des nations, c'est quelque chose qui va pouvoir se décliner à l'infini. Hein, l'idée du développement de l'état stationnaire que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une idée qui échappe complètement à Jean-Baptiste C. Pour lui, il n'y a ni limite économique, ni limite environnementale à la croissance économique. Et tout à l'heure, quelqu'un a fait référence à ces questions, justement, à Descartes, hein, au fait que l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. Et c'est véritablement cette idée-là qui est défendue par Jean-Baptiste C, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'homme, plutôt Dieu, a créé la nature pour que l'homme la valorise. Hein, il a salé les océans pour qu'on puisse saler notre beefsteak. Il a créé, disons, la loi de la gravitation universelle pour que nous puissions régler nos montres, etc., etc. Donc tout a été mis à disposition de l'homme par la providence. Hein. Donc par rapport à ça, tout ce que les hommes ont à faire pour, fertiliser la nature, c'est à trouver la bonne organisation. Organisation donc qui repose sur le plan macroéconomique sur le marché et sur le plan microéconomique sur la bonne organisation hein, qui sera celle de la manufacture. Donc maintenant on va passer au volet
écologie. Oui, alors effectivement, s'agissant d'évoquer l'histoire d'une science devenue discipline, on va resserrer le pas chronologique, j'allais dire. Simplement, effectivement, au XVIIIe siècle, je dirais que ce qui est, me semble-t-il, commun aux naturalistes et aux économistes, c'est la non-prise en compte de l'épuisement possible des ressources ou la question de l'environnement pollué. C'est-à-dire je vais citer juste deux grands naturalistes du XVIIIe siècle, Carl von Linné, en Suède, et puis Gilbert White, en Grande-Bretagne, alors qui développe une économie de la nature, alors qui est à la fois providentialiste et anthropocentré. Alors j'explique les deux termes. Providentialiste, c'est-à-dire que finalement le monde est organisé grâce au dessein providentiel, grâce au dessein de Dieu. Hein, l'économie de la nature, c'est le titre d'un des articles de Linné. L'économie de la nature, c'est quoi? C'est la très sage disposition des êtres naturels institués par le souverain créateur. Donc il n'y a pas de place, je dirais, pour une problématique visant à découvrir des lois terrestres. Hein, les lois qui vont présider à l'organisation du monde sont des lois d'essence divine et anthropocentrées, puisque effectivement le monde est organisé de façon providentielle, de telle sorte que l'homme puisse puisse jouir des biens de la nature. Donc, c'est juste un petit point sur le XVIIIe siècle. Alors, hormis peut-être dans un autre champ qui est celui d'une forme d'écologie coloniale où on pourrait repérer, en particulier au niveau des îles, comme l'île Maurice au XVIIIe siècle, la mise en place d'une véritable législation visant à protéger la nature, l'environnement et à limiter la surexploitation. Donc la pensée naturaliste dominante du XVIIIe siècle n'est pas une pensée favorable à l'émergence d'une problématique écologique, pour le dire de cette façon. Alors effectivement, l'écologie en tant que science naît véritablement au XIXe siècle. Alors de façon souvent un peu rapide, on attribue à Ernst Haeckel le titre de fondateur de l'écologie, ce qui est faux. Hein. Ernst Haeckel a créé le néologisme écologie avec donc les racines qu'a évoqué Sophie, 1866. Alors entre 66 et 69, il propose plusieurs définitions. Alors effectivement, pour dire ce qu'a laissé Ernst Haeckel dans ce domaine-là, c'est effectivement un terme qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire à peine créée, parce que Ernst Haeckel était un grand producteur de néologismes, et c'est un néologisme parmi d'autres, mais effectivement il a proposé plusieurs définitions même de l'écologie, qui relie l'écologie à la théorie darwinienne, puisque Haeckel est un fervent promoteur et défenseur de Darwin, hein, donc Darwin, l'origine des espèces, c'est 1859, écologie c'est 1866, on est dans ce contexte-là. Mais si vous lisez quelque part Ernst Haeckel, fondateur de l'écologie en tant que discipline scientifique, on peut dire que c'est faux. Hein. Il n'y a pas de lien direct. En revanche, donc là, et là aussi je passe allègrement sur tous les grands travaux du 19e siècle, pour arriver à une sorte de synthèse qui est produite à la fin du 19e siècle par Eugène Warming, qui est un botaniste danois, qui publie donc le premier traité d'écologie, c'est de l'écologie végétale. Alors c'est à la fois un ouvrage qui fait la synthèse, une compilation de tous les travaux, les travaux les plus importants qui en dans le cadre de la géographie botanique ou phytogéographie qui traverse le 19e siècle. On pourrait remonter à Humboldt au début du 19e siècle ou de Candolle et puis évoquer les différents jalons. Donc on pourrait dire que la géographie botanique, la phytogéographie est vraiment très centrale dans l'ouvrage de Warming. C'est de la géographie botanique écologique. Et donc, son ouvrage est publié en danois en 95, traduit en allemand en 96. Ça, c'est important puisque l'allemand est une langue de communication scientifique très importante au 19e siècle. Et puis, une version modifiée est publiée en anglais en 1909 avec le titre Ecology of Plants. Donc entre la création du terme par Haeckel et son usage par Warming, j'allais dire qu'il n'y a rien en matière de... Le terme écologie n'est pas utilisé et le croisement entre la problématique écologique telle qu'elle a été lancée par Haeckel et puis les travaux de géographie botanique qui s'intéresse à la problématique de l'interaction entre la distribution des espèces et les facteurs du milieu. Donc cette problématique-là, elle est croisée effectivement par Warming. Alors j'ai dit, c'est un ouvrage qui fait à la fois une synthèse, une compilation de tous les grands travaux du 19e siècle, mais qui lance également un programme de recherche écologique qui va inspirer toute une génération d'écologues, à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc Warming et l'ouvrage de Warming est connu, lu de tous les premiers écologues. On ne les appelle pas encore écologues. Là, beaucoup sont des botanistes à l'origine. Puis ensuite, l'écologie animale se développe à partir des années 20 du 20e siècle. Et on a donc la science écologique qui va s'appuyer sur ces travaux-là. Alors, parallèlement, je dirais qu'au 19e siècle, un certain nombre de concepts sont également formulés et qui vont devenir des concepts centraux dans la discipline écologie moderne, donc le concept de biosphère, de biocénose, pardon. J'y reviendrai tout à l'heure donc, par rapport à Auguste Mobius, la notion de pyramide écologique. Donc on a, ici je ne développe pas parce que ce sont des concepts qui sont bien connus, mais qui nous viennent du 19e siècle. Et effectivement, l'institutionnalisation de l'écologie se produit à partir du début du 20e siècle. Alors on a un certain nombre d'indicateurs, on a des congrès, des grands congrès internationaux, des revues spécialisées au début du XXe siècle, Journal of Ecology, 1913, si ma mémoire est bonne, Ecology, un certain nombre de sociétés, la British Ecological Society, Ecological Society of America, entre 1900 et 1920, on va dire qu'on a un certain nombre de sociétés qui affichent explicitement leur programme de recherche en écologie, et puis un certain nombre de laboratoires reliés à des universités et puis d'écoles, hein, d'écoles écologiques qui se développent alors aux États-Unis, en Europe également. Alors, Le concept d'écosystème qui est désormais central dans la science écologique, lui, est formulé en 1935 par un botaniste. Donc vous voyez qu'à ses origines, l'écologie est très marquée par les botanistes, par des phytogéographes, et ces concepts-là ont été ensuite transférés au domaine animal. Et du coup, on va aller, entre guillemets, rechercher le concept de biocénose qui, lui, a été pensé par rapport à une problématique... celle des huîtres, donc au niveau de la biologie animale, si on peut dire. Alors, le concept moderne d'écosystème naît dans les années 40 avec un Américain, Raymond Lindemann, qui, lui, va développer une approche trophique énergétique, et on va modéliser l'écosystème en termes de flux tel qu'on peut le voir actuellement. Et j'arrêterai là pour cette période historique. J'arrêterai en 1953, où là, on peut dire que l'écologie systémique, l'approche systémique de l'écologie est promue par cet ouvrage, Fundamentals of Ecology, qui est devenu un ouvrage de référence pour tous les écologues depuis les années 50. C'est presque le livre de chevet des écologues, d'une certaine façon, qui développe une certaine approche. Donc là, j'ai fait une approche très, très pointilliste là aussi pour indiquer quels sont les jalons. Donc, en résumé, si vous voulez, l'écologie est effectivement une science du 19e siècle, d'où cette histoire asynchrone que tu évoquais tout à l'heure. Hein. L'écologie ne naît pas au 18e siècle comme l'économie, elle naît un siècle plus tard. Et effectivement, après, on va voir quels sont le pari que l'on fait, c'est qu'effectivement, il y a des passeurs entre les deux histoires.
Donc, je vais donc continuer donc en reprenant la parole pour donc faire état maintenant donc d'un certain nombre, disons, d'interrogations nouvelles qui vont donc se développer sur une période relativement longue et qui vont donc progressivement amener donc les économistes, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, à s'intéresser donc à la question environnementale, ou en tout cas donc aux interactions susceptibles de se développer entre l'activité humaine et les ressources naturelles. Hein, donc, et c'est l'ensemble des économistes, enfin, il n'y a pas que des économistes hein, dans les auteurs qui ont été ici listés, mais on peut les présenter comme étant donc quand même des auteurs qui ont d'abord une pensée économique et qui s'inscrivent, disons, dans une position de contestation, de rupture par rapport au modèle de développement économique qui est celui des économistes classiques et libéraux, hein, c'est-à-dire, comme je l'ai présenté tout à l'heure, d'un modèle économique qui repose fondamentalement sur le marché. Alors, quels sont donc les auteurs sur lesquels il est intéressant donc d'insister? Donc, le premier est plutôt un philosophe hein, qu'un économiste, c'est Thomas More, donc un Anglais donc, du XVIe siècle, qui est très connu donc, pour un ouvrage très célèbre, L'Utopie, hein, où donc, il imagine une espèce de société idéale. Alors, pourquoi imagine-t-il cette société idéale ? Parce qu'il part d'un constat, il dit que l'Angleterre est le seul pays au monde où les moutons mangent les hommes. Alors, pourquoi les moutons mangent les hommes ? Donc, bien sûr, ici, il s'agit d'une métaphore, dans la mesure où on va privilégier le développement de l'industrie lainière et donc le développement de l'élevage des moutons au détriment des cultures vivrières. Hein. Donc, on a déjà, hein, au début du XVIe siècle, hein, le développement d'une économie industrielle hein, qui se met en place. Et donc, par rapport à cela, il imagine donc une société donc, qu'il va qualifier donc, d'utopique, qui repose non plus sur le marché, mais sur une forme, disons, d'organisation planifiée et organisée par l'État de l'économie. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes dans son modèle organisationnel. Hein, par exemple, il souligne que tout le monde devra travailler dans cette nouvelle société. Il n'y aura pas de riches et de pauvres. Tout le monde devra travailler. Donc, dans ces conditions, le temps de travail individuel sera de 6 heures par jour. Il dit aussi que, les maisons seront attribuées... Tout le monde aura une maison et qu'elles seront attribuées par tirage au sort. Donc, comme la prospérité régnera, puisqu'il n'y aura plus de classe sociale, il n'y aura plus de vol, donc plus de nécessité de police. Et il imagine, par exemple, que les maisons n'auront pas de serrure parce que, justement, le vol aura disparu. Alors, pourquoi avoir parlé de Thomas More? C'est parce que, pour lui, je dirais, donc, le problème qu'il souligne d'emblée, c'est-à-dire ces inégalités sociales, ces inégalités économiques, reposent sur des choix politiques. Et donc, par conséquent, si on change l'organisation politique de la société, eh bien, on aura donc une nouvelle dynamique de prospérité. Autre auteur important, donc Patrick a fait référence à Malthus tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur cet auteur, hein, entre le déséquilibre entre croissance de la population et croissance des ressources. Troisième auteur important, donc c'est bien sûr Karl Marx, qui fait donc un parallèle concernant sa description du capitalisme entre l'exploitation du travailleur et l'exploitation de la nature. Donc, tous deux sont exploités par le capitaliste pour créer un profit. Et là aussi, un petit peu comme Thomas More, bon, à quelques iota près, hein, il pense que on passera outre ces problèmes grâce à une nouvelle organisation de la société qui sera donc le socialisme et puis plus tard aussi le communisme, hein, donc une société où, comme pour Thomas More, c'est l'État qui va régir la production et la répartition des richesses. Donc ensuite vient Engels, donc Engels qui, comme vous le savez tous, a été le collaborateur de Marx. Alors, qui bien sûr est aussi le théoricien du socialisme et du communisme, mais en 1883, donc année de la mort de Marx, il publie un petit ouvrage qui s'appelle « La dialectique de la nature », où bien sûr il ne remet pas en question toute cette réflexion développée avec Marx sur le changement qualitatif que le socialisme puis le communisme apporteront, mais il s'interroge aussi sur, je dirais, le caractère non durable d'un certain nombre de civilisations. Il étudie avec minutie la Grèce antique, la Mésopotamie et s'interroge sur les raisons de la disparition de ces civilisations. Il a une expression où il dit, bon d'accord, on pense qu'avec le progrès technique, on va mettre fin à tous les maux de l'humanité, mais il a cette phrase assez intéressante, à mon avis, il dit, la nature se venge toujours. Hein, donc, tout à l'heure, Patrick Matagne parlait par rapport au développement durable, du développement durable fort et faible, et donc, on le voit ici que ce sont des interrogations qui remontent au XIXe siècle. Est-ce que le progrès technique va permettre à l'humanité de solutionner tous les problèmes auxquels elle est confrontée? Et puis, autre point aussi sur lequel insiste Engels, dit que donc, le progrès technique ne résout pas tous les problèmes, malgré donc le développement de la puissance de la machine à vapeur, de la grande industrie qui est celle du 19e siècle. La pauvreté n'a pas disparu, elle s'est même développée. Donc, bien sûr, il y a chez Engels comme chez Marx l'idée qu'avec une nouvelle organisation sociale, on va mettre fin à ces problèmes, mais Engels est quand même moins chaud que Marx et s'interroge beaucoup sur le rôle du progrès technique. Est-ce que le progrès technique sera véritablement la solution aux maux de l'humanité ? Et ces interrogations sont aussi palpables donc, chez un autre auteur, donc, qui s'inscrit donc dans une lignée idéologique un peu différente, puisque c'est James Stuart Mill, qui est un auteur donc anglais libéral, et qui en gros est peut-être celui qui annonce le rapport des années 60, halte à la croissance, parce que il remet, il s'interroge sur le concept dont j'ai parlé tout à l'heure d'état stationnaire et considère en définitive que il faut mettre un terme à la course à la production et rechercher plutôt un développement économique qui ne soit pas toujours basé sur produire plus, mais sur une certaine qualité de vie. Il met notamment l'accent sur la nécessité donc de développer, une certaine forme de... Voilà, on va se dépêcher. Comme je l'ai dit à Patrick tout à l'heure, j'ai toujours du mal à maintenir mon temps de parole. Donc, une certaine qualité de vie, notamment au niveau des relations sociales. Donc, voilà.
Je vais essayer d'être effectivement concis, et puis on pourra peut-être après en rediscuter, même pendant le repas. Donc, effectivement, par rapport à ces questions des passeurs, alors, j'ai eu beau chercher... Chez les naturalistes au sens traditionnel, on trouve très peu de réflexions sur la problématique de l'épuisement des ressources et effectivement sur les relations qu'il pourrait y avoir entre certains modèles économiques et puis la protection de la nature ou protection de l'environnement. C'est plutôt chez des penseurs issus d'autres champs l'on peut se tourner, en particulier du côté de la littérature, de la philosophie, mais également chez des géographes et on va dire chez des non-naturalistes, sauf peut-être George Perkin Marsh, encore que même Friedrich Ratzel, qui est géographe, a une formation de naturaliste au départ. Donc les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Möbius également est un naturaliste, mais il faut ouvrir le champ, c'est-à-dire les passeurs de l'écologie vers l'économie, écologie entre guillemets, qui ne dit pas encore tout à fait son nom pour l'instant, va effectivement être lié à ces différents champs disciplinaires qu'il faut convoquer. Alors effectivement, dans la littérature, on peut dire que David Thoreau, je pense qu'on dit Thoreau, occupe une place tout à fait particulière puisque s'inscrivant dans la mouvance d'un mouvement qu'on appelle un mouvement transcendantaliste, donc peu importe ici, va publier un ouvrage, Walden ou la vie dans les bois, qui raconte en fait une expérience de retraite. Donc dans cet ouvrage, il raconte deux années de solitude dans une cabane qu'il a construite sur les rives de l'étang de Walden dans le Massachusetts. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les 18 chapitres de l'ouvrage, il y en a un qui est également le plus long, qui traite directement d'économie. Alors, je dirais que c'est presque une recherche. Il essaye de trouver quelles sont les conditions qui permettent d'arriver à une forme de simplicité volontaire, puisque son expérience, donc il relate exactement les différents types. Il tient une comptabilité minutieuse de ses dépenses, de ses recettes. Quelles sont les conditions qui permettent de subvenir à ses besoins, et il repère quatre types de besoins de base: nourriture, abri, vêtements et combustible. Donc voilà, il essaye de modéliser à partir de son expérience une forme d'économie sobre d'une certaine façon. Donc je ne vais pas plus loin là. Alors Élisée Reclus, donc, qui était un géographe, on dit souvent géographe anarchiste, le fait d'avoir été anarchiste, ça ne lui a pas apporté que du bonheur. Donc qui lui va s'inspirer de quelque chose que je vais évoquer juste après, d'une forme de géographie humaine, une forme de géographie humaine à la française inspirée de l'anthropogéographie allemande, et dans laquelle effectivement qui l'amène à dénoncer les méfaits, l'impact en termes de pollution d'un certain type de développement économique, hein, une économie de pollution. Alors il développe cela dans plusieurs ouvrages ou articles, en particulier dans l'histoire d'un ruisseau. Donc il utilise le ruisseau pour illustrer effectivement l'impact de la grande ville industrielle en termes de pollution. Il dit, en approchant de la grande ville industrielle, c'est intéressant de parler de la grande ville industrielle. On est en 1866 ici. Donc en approchant de la grande ville industrielle, le ruisseau se souille de plus en plus, les eaux ménagères des maisons qui le bordent se mêlent à son courant, les viscosités de toutes les couleurs, etc., odeurs fétides qui se répandent dans l'atmosphère. Le ruisseau devenu cloaque entre dans la cité, il part de hideux égouts, l'énorme bouche ovale fermée de grilles, etc. Et il évoque à l'inverse, effectivement, dans la libre campagne, hein, il oppose la libre campagne à la ville industrielle, dans laquelle, donc, libre campagne, dans laquelle l'eau scintille au soleil, le ruisseau est transparent, les oies, les cailloux blancs, etc. Et il évoque de la responsabilité de l'homme, de l'économie, hein, et de l'industrialisation. Il évoque directement la responsabilité de l'homme dans ces questions de pollution. Alors, Möbius, je l'évoquais tout à l'heure, lui, alors, du coup, j'allais dire, c'est un vrai biologiste, un vrai naturaliste, qui, lui, a une mission, il est missionné par son gouvernement de Prusse pour étudier les causes de l'épuisement des bancs d'huîtres du Schleswig-Holstein, qui est un lander septentrional d'Allemagne. Et donc, effectivement, on peut dire que depuis les années 40 du 19e siècle, on tente de développer ce qu'on appelle l'ostréiculture, donc la culture de l'huître, la culture industrielle de l'huître. On tente de la développer en Allemagne, en Angleterre, en France également. Et il y a effectivement un épuisement des ressources qui est lié à plusieurs causes, en particulier le développement du chemin de fer, puisqu'il y a à la fois une mode pour la consommation de l'huître et la possibilité, grâce au chemin de fer, d'apporter très rapidement sur les bonnes tables des grandes capitales européennes des huîtres fraîches. Donc la consommation, la surconsommation entraîne une surexploitation. Alors évidemment, il y a il confronte, Möbius, les données biologiques qu'il a avec certains modèle économique, et il conclut donc que l'ouverture des marchés, une fois encore à laquelle contribue l'essor du chemin de fer, est une des causes de la surexploitation des bancs d'huîtres. Et il conclut, alors c'est évidemment hors de propos de parler de développement durable, mais il essaie de montrer comment, en respectant le rythme de cette biocénose, c'est-à-dire cette communauté animale et végétale à laquelle appartient l'huître, c'est cette connaissance du fonctionnement de cette biocénose qui permettra de développer une exploitation durable de l'huître. Il y a une crise de l'huître, je dirais, en Europe. Il est allé en Angleterre, il est allé à Arcachon également, où on connaît les mêmes problèmes. Alors, Autre coup de projecteur, j'ai évoqué l'anthropogéographie à propos d'Élisée Reclus. Alors, la notion de Raubwirtschaft est tout à fait intéressante. Elle est développée par Friedrich Ratzel en Allemagne. C'est littéralement la problématique du pillage, de l'économie de pillage. C'est-à-dire que Ratzel, dans un contexte darwinien, il ne faut pas l'oublier, développe cette notion d'économie de pillage, de Raubwirtschaft, et il montre que l'homme est un dévastateur et un pilleur des ressources naturelles. Alors, ce qui est intéressant par rapport au darwinisme, c'est que à la fois la référence au darwinisme lui permet d'alerter en disant attention, l'homme comme les autres espèces peut être amené à disparaître, hein, c'est la loi des théories de l'évolution de Darwin, et en même temps c'est une théorie qui permet de légitimer l'action de l'homme, puisque le concept même de sélection naturelle et de sélection des plus aptes permet à Ratzel de dire mais effectivement l'espèce dominante, hein, la mieux adaptée, va effectivement exploiter le milieu. Donc c'est un discours assez paradoxal, hein, entre l'alerte, il s'appuie sur Darwin à la fois pour alerter sur les risques qu'il y a à continuer à développer cette économie de pillage, et en même temps il la légitime. Alors, d'autres éléments pour terminer rapidement. Tu as évoqué tout à l'heure en introduction que l'histoire de l'environnement née dans les années 60 du XXe siècle. Et effectivement, cette histoire-là nous a montré que les premiers mouvements environnementalistes naissent au XIXe siècle, en particulier aux États-Unis, en France et en Allemagne également. Mais là, par rapport aux États-Unis, où peut-être c'est là que la structuration de ce mouvement est la plus forte. Et donc, en particulier, un certain nombre de courants. J'ai parlé du transcendantalisme tout à l'heure. On pourrait parler du mouvement préservationnisme autour de la notion de wilderness développée par John Muir. Et puis, toute une littérature. Donc là, on n'est pas directement sur le lien entre économie et écologie. C'est juste pour évoquer qu'il faut aller chercher dans les racines de cette écologie qui prennent en compte les questions de pollution d'autres champs, et donc en particulier la littérature, ce qu'on appelle la littérature de la prairie, avec le dernier des Mohicans. Et je termine quand même par un naturaliste, donc George Perkin Marsh, qui est dans Man and Nature, qui lui va dénoncer l'économie forestière telle qu'elle se développe aux États-Unis au 19e siècle, et donc dénonce cette forme d'exploitation de la nature, et lui aussi donne des indications sur la manière qu'il y aurait de, à la fois d'exploiter la nature et de la protéger. Après, il y a d'autres courants sur la nature sauvage, etc., qui sont beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus hard. Lui, il est vraiment dans une logique de gestion durable de la nature, et il prend l'exemple de l'économie forestière.
Très bien. Donc, compte tenu du temps qui nous reste, je vais faire un résumé de la conclusion, donc en mettant l'accent sur les points qui sont les plus importants. Donc, premier point, la pollution, donc par rapport à la définition que nous en avons donnée, a toujours existé, et pourtant c'est donc à partir, comme on va le voir par la suite, au début du XXe siècle que les économistes vont commencer à s'interroger sur donc cette enfin, véritablement, de façon décisive, sur l'équilibre entre croissance économique et dégradation environnementale. Et donc, par rapport à ça, donc, on va peut-être revenir sur ces points au cours de la discussion. Je vais essentiellement donc mettre l'accent sur le dernier point, c'est-à-dire sur, je dirais, la prise en compte officielle au regard de ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire ces passeurs, ces économistes qui contestent l'ordre libéral établi et qui justement pointent du doigt ce déséquilibre entre activité humaine et ressources disponibles, avec donc à partir donc des années 1920, je dirais, une production de concepts venant de la part d'économistes qui intègrent dans leur raisonnement la question environnementale. Donc, le premier point décisif sera celui de Arthur Cecil Pigou, donc un économiste anglais qui a été notamment le professeur de Keynes, avec le concept des externalités qui va déboucher donc sur le principe du pollueur-payeur, qui sera mis donc en pratique à partir de 1972, avec la conférence de Stockholm qui a été évoquée tout à l'heure par Patrick Matagne. Et autre concept important, donc c'est celui des permis d'émission qui va être développé dans les années 60 et qui sera notamment donc à la base des accords de Kyoto dans les années 90, même si ce principe a aussi été développé antérieurement aux États-Unis. Donc l'hypothèse que nous formulons, c'est que si l'économie a mis, aussi longtemps pour intégrer la contrainte environnementale dans son raisonnement, c'est parce qu'elle est, au regard de la définition qu'en donne Schumpeter, une science des affaires, et donc en ce sens, un moyen de légitimer, en fin de compte, un certain nombre de pratiques dans le domaine des affaires sur le plan scientifique. Alors, je sais bien que cette affirmation est un petit peu rapide. Peut-être qu'en fonction de vos questions, on sera amené à la nuancer.
Voilà. Je voulais juste préciser que ce travail que nous sommes en train de mener, Sophie et moi-même, c'est un travail qui est en cours. Hein. Vous avez vu qu'au travers de ce qu'on évoque là, on essaye de repérer effectivement quels pourraient être les passeurs dans un sens ou dans l'autre. C'est une question qui nous intéresse depuis longtemps, mais sur laquelle nous travaillons vraiment depuis un an,
à peu près un an.
Donc on est effectivement en cours. Et il nous a semblé intéressant d'aborder cela dans le cadre d'une journée dans laquelle on parle de regards croisés. Je rappelle le titre de ces journées, énergie, transport, développement durable, regards croisés. Donc nous avons essayé de voir de quelle manière on peut croiser les regards entre l'économie et l'écologie au cours de cette présentation-là.
Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Moi, j'étais très contente d'entendre que la pollution, dont on parle beaucoup, en fait, quand on rencontre des personnes âgées, ils disent non, dans le temps, c'était pas comme ça, c'est pas vrai, c'était comme ça. C'est plus compliqué que ça.
Oui,
la pollution est aussi historique, donc oui. Beaucoup de concepts dont on parle maintenant concernant l'environnement sont des concepts qui sont historiquement, voilà, ciblés, placés historiquement aussi.
Il n'y a jamais eu d'âge
voilà,
d'or.
Voilà, exactement, il n'y a jamais eu d'âge d'or. Ça, c'est très intéressant. Toute votre intervention était vraiment passionnante. Alors, quel est l'équipement ? Bien.
Bonjour. Moi je trouvais ça, c'était très intéressant. Vous avez présenté plein de théories différentes de façon de voir le développement durable en gros. Hein. Et en fait, je voulais savoir à laquelle vous croyez le plus en fait. Parce que là, vous présentez plein de choses et donc, vous mettez tout un peu sur un pied d'égalité. Et donc, ça c'est très intéressant, mais juste savoir à laquelle vous appartenez, on va dire.
Ouais, il n'y a pas véritablement de réponse à apporter à votre question, parce que l'objectivité, bien sûr, n'existe pas. Hein, on a fait aussi une sélection des théories en fonction de nos centres d'intérêt. Donc, par rapport à ça, il y a peut-être une question, qui transcende l'ensemble de cette intervention. C'est donc, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, pourquoi, alors que la question environnementale est une question, permanente de l'histoire de l'humanité, pourquoi elle a mis autant, de temps à devenir, une question scientifique, une question de chercheur. Et d'une certaine façon, quand j'évoque la pensée de Schumpeter qui présente l'économie comme étant la science des affaires, on pourrait dire que cette fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'économie se structure en tant que discipline scientifique, nous fait perdre beaucoup de temps. Parce que y a une espèce d'élan d'optimisme avec l'idée que de toute façon les limites naturelles, toutes choses égales par ailleurs, hein, parce qu'il y a de fausses notes aussi par rapport à ça, les limites naturelles à la croissance, à l'enrichissement ne se posent pas, tout est une question d'organisation, ça fait que on s'est voilé la face pendant de nombreuses années, et c'est parce que à un moment donné il y a des problèmes cruciaux qui se posent, la raréfaction des ressources, parce que tout ce qui intéresse les économistes, c'est le problème du coût, c'est le problème du prix. Et au-delà de ça, rien ne les intéresse. Donc à partir du moment où les comment le, un certain nombre de denrées, le prix d'un certain nombre de denrées augmente et diminue le profit de l'industriel, bon, ben, là, ça va interroger l'économiste. Mais sinon, de savoir si ça va entraîner la disparition de telle ou telle espèce animale ou empêcher ma voisine de respirer correctement, ça, ça n'intéresse pas l'économiste. Ça intéresse l'économiste si ça limite son profit. Hein, d'où l'idée de qu'on a développée au regard de l'analyse de Schumpeter de l'économie qui est la science des affaires.
Ça devrait quand même l'intéresser puisque globalement, je ne sais pas, vous prenez l'exemple, si ça empêche que le voisin de respirer, globalement, il va y avoir des coûts médicaux qui vont être en jeu. Et donc, ça va, certes, une réflexion sur l'ensemble devrait l'intéresser quand même.
Oui, oui, tout à fait. Mais là aussi, est-ce que, comme tout à l'heure aussi, la réflexion entre le développement durable, version faible, version forte, est-ce qu'on pense justement que ces questions environnementales trouveront leur solution par le marché, hein. Et donc, par exemple, je produis une pollution en tant qu'industriel et les populations avoisinantes ont des problèmes pulmonaires. Bah, par rapport à ça, moi, je suis un industriel de la santé, je vais leur vendre des appareils pour respirer correctement. Hein. Donc, de toute façon, c'est par le marché qu'on va trouver une... qu'ils ne pourront pas acheter, peut-être. Voilà. Donc, c'est l'idée aussi que par le marché, justement, qui va faire en sorte que des technologies nouvelles vont apparaître, justement, du fait de l'apparition de nouveaux besoins, eh bien, on y a une espèce d'optimisme qui fait que, de toute façon, tout a une solution.
Il y a aussi... J'avais entendu parler aussi du fait que des industries, des usines peuvent vendre. C'est que ça concerne le carbone, c'est ça?
Oui, c'est
Est-ce
juste...
que vous pouvez en parler un peu là. Parce que c'est un sujet absolument cynique, je trouve, en économie. C'est-à-dire c'est le permis de polluer. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est la différence entre le concept des externalités. Donc, pour Cécile Pigou, il y a deux types d'externalités, les externalités négatives et les externalités positives. Alors, parmi les externalités négatives, ce sont bien sûr, c'est par exemple la pollution. Hein. Donc, et le fait que vous avez une entreprise qui va dégager une fumée toxique qui va nuire donc à l'état de santé des populations environnantes. Donc, ça veut dire que le coût social généré par l'activité de cette entreprise sera supérieur au coût supporté par l'entreprise du fait que elle a dépensé, elle a acheté des matières premières, payé des salariés, etc. pour fonctionner. Et donc pour Pigou, il faut instaurer le principe du pollueur-payeur, donc taxer l'entreprise polluante de manière à dédommager la personne polluée ou la population polluée. Et donc ce principe a été remis en cause par Ronald Coase. Du reste, c'est assez marrant parce que Ronald Coase, vous voyez, j'ai mis sa date de naissance, je n'ai pas mis sa date de mort. Hein. Il a 103 ans. Hein. Donc, lui, la pollution, ça n'a pas dû le gêner. Parce que justement, il conteste cette idée du pollueur-payeur. Parce qu'il dit, si je taxe l'entreprise polluante, eh bien, celle-ci va être gênée dans son activité puisqu'elle aura une taxe qui va peser sur les profits qu'elle est susceptible de réaliser. Donc, il faut justement non pas passer par l'État, mais passer par le marché. Et donc, par rapport à ça, on doit, en fin de compte, définir une quantité, donc par exemple, de gaz à effet de serre qui sera rejetée dans l'atmosphère. Et par rapport à ça, donc, on établit des quotas par pays, par entreprise qui permettent, qui correspondent à une certaine quantité, par exemple, de gaz à effet de serre qui seront relâchés dans l'atmosphère. Et ce qui est intéressant, c'est que ces permis d'émission sont des permis négociables. C'est-à-dire que si vous polluez trop par rapport à votre permis, vous pourrez acheter donc, le droit à polluer par rapport à une autre entreprise ou à, si vous êtes un pays, un autre pays qui, lui, va polluer moins. Donc, ce qui fait que, alors pour COS, c'est la solution idéale parce que on ne va pas avoir un État qui, par le biais d'une fiscalité, va peser sur la profitabilité de l'entreprise. Mais là aussi, bon, bien sûr, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien non plus.
Donc, merci à tous les deux.
Merci. Oui. Juste une petite interruption, hein, toujours pour l'organisation. Est-ce que Aquarini est là ? Non, définitivement. Est-ce que vous avez tous bien signé ? Parce que j'ai l'impression que certains n'ont pas signé. Monsieur Caplier, notamment, que je connais, n'a pas signé. Et d'autres, alors, vous signez. Je vais laisser la parole, évidemment, à la personne qui va venir juste après. Vous suivez... Il y en a qui m'ont posé leur question sur le repas. Le repas est prévu dans, ici, à l'intérieur, dans une salle. Hein. Vous n'allez pas manger ailleurs. C'est prévu dans la formation. Je ne participerai pas au repas. Je reviens cet après-midi. Pour d'autres informations, notamment pour ce soir, pour l'histoire du restaurant de ce soir, je ferai une autre intervention cet après-midi. Voilà. Ceux qui n'ont pas signé la feuille, vous le faites, hein, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur Romain. Donc, comme vous l'avez vu, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, le développement durable, quand on a organisé les journées d'études avec Patrick il y a quelques années, on s'est rendu compte que c'était transdisciplinaire, interdisciplinaire, comme on veut. Et donc, M. Monédière, vous aviez eu l'amabilité de venir la dernière fois, vous avez parlé du droit et développement durable. Et contrairement à ce qu'on pensait, c'était, disons que le droit et développement durable, ça pouvait paraître abscon, et avec M. Monédière, c'était vraiment passionnant. Donc, c'est pour ça qu'on vous a... demander de revenir aujourd'hui. Donc cette transdisciplinarité, c'est très important pour vous aussi de voir qu'un terme, qu'un sujet peut être transdisciplinaire, ça l'enrichit énormément. Et on s'est rendu compte que beaucoup de disciplines, des philosophes, des historiens des sciences, des scientifiques, des juristes, des économistes, s'étaient appropriés le développement durable et ça enrichit énormément les approches. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc vous êtes directeur du Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme, au CRIDO, membre du conseil scientifique du GIS, participation du public du programme GESOL, c'est-à-dire une gestion de patrimoine, seul ministère chargé de l'environnement, du service de l'observation et des statistiques du commissariat général du développement durable, ministère chargé de l'environnement, expert dans le dispositif de reconnaissance des projets territoriaux du développement durable des agendas 21 locaux, du commissariat général du développement durable, ministère chargé de l'environnement, membre du conseil scientifique international, de Cadernos Juridicos, centre universitaire salésien de Sao Paulo, UNISAL, etc., membre du bureau du Centre international de droit comparé de l'environnement, chercheur associé au Centre de recherche juridique de l'Université de La Réunion, membre du conseil scientifique de la revue juridique de l'Océan Indien. Donc les productions de M. Monédière, vous les verrez si vous faites Google, Gérard Monédière, vous aurez tout le CV de notre invité. Donc vous allez nous parler de l'urbanisme et environnement, démocratie et participation. Merci beaucoup, monsieur.
C'est moi qui vous remercie. Vous, Anne Bonnefoy, Patrick Patagne, également, plus largement, les collègues de l'école doctorale, puisque nous sommes ici dans un cadre universitaire. Puis, alors, je vous dissimulerai pas que je ne regrette pas d'être venu, parce qu'à travers les interventions de ce matin, soit j'ai appris des choses, soit... mes souvenirs s'étant un peu estompés, ils sont remontés en pertinence à travers les interventions. Il y a une sorte de privilège à intervenir le dernier, c'est que des choses qui ont été dites ont fait penser à des prolongements possibles. Vous me permettrez... à titre préjudiciel, de faire deux observations. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre Patrick Matagne signaler un de mes auteurs de prédilection qui est Élisée Reclus. Et je fais un usage inflationniste d'un mot, d'un écrit d'Élisée Reclus. qui concerne une dimension de l'environnement et du développement durable qu'on a souvent trop tendance à regarder comme un peu superflu, un peu superfétatoire, un petit peu le luxe des nantis, qui est la question de la protection des paysages. Et spontanément, on a plutôt tendance à dire, bon, il y a les choses sérieuses d'abord, et puis ensuite, oui, le paysage, mais enfin, le paysage, c'est quand même accessoire. Or, j'ai désespérément essayé de me remémorer la phrase d'Élisée Reclus. Je ne mettrai pas de guillemets, hein, parce que je ne garantis pas à l'article près, mais ce que je garantis, c'est les mots qu'il utilise et l'idée qu'il défend. Il écrit « Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les esprits s'engourdissent, se dispose à la torpeur et à la mort. » Et en fait, c'est quelquefois le sentiment qu'on peut ressentir lorsque on se retrouve dans ce qu'il faut appeler un paysage dévasté. Ma deuxième observation, c'est par rapport, avec beaucoup de précautions, hein, je ne suis que juriste, par rapport aux théories de Ronald Coase, qui participent plus ou moins d'un courant qui s'appelle l'économie du droit et qui s'est acharné à mettre de côté les formes traditionnelles des énoncés juridiques, ceux que nous connaissons tous, la loi, le décret, etc., au bénéfice, bien entendu, des règles du marché infiniment plus souples, qui ne demandent pas cette lourdeur administrative des contrôleurs, des inspecteurs, on en entend tous parler qu'il faut moins de fonctionnaires. Ben voilà un bon moyen de bien. S'agissant du système de bourse d'échange de droits à polluer carbone au niveau de l'Union européenne, je tiens quand même à signaler un petit événement qui a caractérisé l'année écoulée et dont la grande presse ne s'est que très modérément fait l'écho. À savoir que cette bourse au niveau de l'Union européenne, parce qu'il s'agit à mes yeux d'un processus de financiarisation, a dû être pendant 4 mois fermée, car la Commission a fini par s'apercevoir qu'elle avait provoqué une phénoménale fraude à la TVA. Où plusieurs millions et dizaines de millions d'euros se sont littéralement évaporés dans la nature, les droits passant d'un État à l'autre sans acquitter la TVA. Donc, lorsque on me dit que le marché est la réponse à tout, j'ai quelquefois une petite réserve. Les quelques mots que je veux vous dire, c'est, et conscient du public, de l'auditoire auquel on a affaire aujourd'hui, s'enracine sur une sorte de double principe qui est à la fois d'incompréhension et d'incompétence. S'agissant des rapports science et droit, mais s'agissant aussi des rapports science et public, public au sens le Pékin lambda, monsieur tout le monde, et il n'y a aucune dimension péjorative dans ce que je dis. Vous savez, on est toujours le public ignorant de quelque chose. J'ai rarement rencontré des gens totalement omniscients. Cette inculture du public à l'égard de la science, des scientifiques, mais également à l'égard du droit, elle prend deux formes. La première forme, pour l'exemple dans le domaine de la science, la première forme, c'est quasiment, oui, il a bien parlé, mais c'est de l'enfumage. D'abord, j'ai pas tout compris, et si j'ai pas tout compris, c'est parce qu'il a voulu que je comprenne pas tout, c'est de l'enfumage. Deuxième forme, diamétralement opposée, Ah ben, l'ingénieur a parlé, il a dit le vrai. Hein. Il n'y a plus rien à dire. Et ça, ça vaut aussi changer. Mettez un juriste à la place d'un ingénieur, c'est exactement le même scénario auquel on a affaire, qui n'est véritablement absolument pas circulaire, absolument pas productif, absolument pas cognitif de quoi que ce soit. Et puis, ce qui fait miroir, c'est aussi, il faut le dire, bien souvent, comportement d'arrogance du juriste ou du scientifique qui est convaincu de détenir, à raison de ses compétences, l'alpha et l'oméga de tout, qui ne supporte pas l'observation, la mise en doute. Et pourtant, pour ne citer que quelques auteurs, à peu près tous contemporains, la critique de cette arrogance de celui qui sait par rapport à ceux qui ne sauraient rien a totalement été conduite par des gens comme Jacques Ellul, comme Martin Heidegger, comme Hannah Arendt. J'attire votre attention sur une phrase d'Hannah Arendt un petit peu prémonitoire, qui avait écrit quelque part que le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers de la même médaille. C'est pas très optimiste, mais ça me semble correspondre, pour une part, en tout cas, à la réalité que nous avons sous les yeux. Je me propose surtout de vous parler des rapports entre droit, science et démocratie à l'époque contemporaine. Tout d'abord, sur les rapports droit, science, une observation qui est généralement assez peu mise en relief, c'est que le droit de l'environnement, pour se constituer, pour s'écrire dans la norme même, a puissamment besoin des scientifiques. Ce point est peu mis en relief. Pour autant, le droit n'a pas à être le simple greffier de l'expertise scientifique, puisque d'une certaine façon, le droit va exprimer des options politiques. Mais dans une série tout à fait considérable de domaines, le droit de l'environnement est à haute densité technique et scientifique. Prendre juste un exemple, je crois que c'est le livre 5 du Code de l'environnement, qui est consacré essentiellement aux produits biocides. Les biocides. J'ai l'intime conviction qu'un collègue biologiste ou chimiste, à la lecture de ce livre 5, du Code de l'environnement, le comprend beaucoup mieux que moi en qualité de juriste. Allez voir, par curiosité, allez voir ce que dit l'article L, l'article R, etc., etc., dans ce livre du Code de l'environnement. Par nécessité, la norme doit être ainsi composée. La question de la démocratie, c'est aussi un peu la question de l'intérêt général. La question de l'intérêt général, c'est peu dire qu'aujourd'hui, elle est en crise, et en crise aussi, bien sûr, dans un pays comme la France. Alors, on a quelques indices de ces crises. Je me souviens d'un rapport d'un... C'est une race qui a disparu. On les appelait les grands serviteurs de l'État. Une race qui a disparu... Je voudrais insister sur ça, comme on est à l'espace Mendès France. Je pense qu'il serait assez peu satisfait de cette évolution qui voit des gens poursuivre des études de très haut niveau payées par nos impôts et qui, à l'issue de leur formation, n'ont rien de plus pressé que de même pas honorer les années de service qu'ils doivent à l'État pour se diriger immédiatement vers le secteur privé, qui est bien sûr beaucoup plus rémunérateur. Mais cette race de grands commis de l'État, je pense à Edgar Pisani, par exemple, il y avait une autre manifestation chez un monsieur qui s'appelait Pierre Maillet et Pierre Maillet était ingénieur général des ponts et chaussées. Et dans un rapport qu'il avait donné, donc plutôt côté urbanisme là, hein, dans un rapport qu'il avait donné en 1993, j'avais trouvé qu'il était absolument pathétique. Parce qu'il disait, il commençait à dire, en matière d'urbanisme, l'administration ne fait plus son métier. L'administration ne fait plus son métier, pour preuve, la multiplication de contentieux administratifs où l'État est condamné. L'État, l'administration, son rôle éminent, c'est de faire appliquer les textes et de faire respecter la loi. C'est une sorte de banalité de base, mais qui gagne à être rappelée. Et les mots qu'utilisait Pierre Maillet étaient particulièrement drôles. Il disait, et on en est rendu à une situation où ce sont des associations de toute nature, et on sentait l'horreur qu'il ressentait, lui, à l'égard de cette configuration, où ce sont des associations de toute nature qui défendent l'intérêt général et qui se voient confirmées par les décisions de jurisprudence. Alors ça lui paraissait vraiment, je vous dis, en tant que grand commis de l'État, une situation réellement épouvantable. Et l'année d'après, c'est un ministre de l'Environnement, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, ça n'a pas d'importance, qui avait envoyé à sa prise de fonction un courrier à ses directeurs, c'est-à-dire ceux qu'on appellerait aujourd'hui les DREAL, directeurs régionaux de l'environnement, du logement et de l'urbanisme, adresse une lettre de prise de fonction pour leur indiquer quelle va être l'orientation générale qu'ils souhaitent voir développer dans son ministère. Et il écrit les choses suivantes. Je rappelle, nous sommes en 94. Pour ne pas se couper de la population, l'État doit être attentif aux citoyens et aux transformations de la société. Dans une démocratie, s'il n'y a pas de décision sans écoute préalable et sans dialogue, il n'y a pas non plus d'écoute ou de dialogue permanent sans décision. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. L'expression de la démocratie évolue. De plus en plus, les citoyens, les usagers et les riverains interviennent dans les choix d'infrastructures et plus généralement dans les choix publics, parfois violemment, remettant en cause la notion d'intérêt général et parfois même la notion de progrès. Leur intérêt est légitime. C'est un ministre qui écrit ça. C'est un ministre qui écrit ça et qui attire l'attention de ses directeurs administratifs sur le fait que dans la société, en matière de démocratie, d'intérêt général, de confiance, quelque chose est en train de changer. Justement, en matière de démocratie, c'est l'époque où on commence à parler d'une manière de plus en plus soutenue de la nécessité de conforter la démocratie représentative, c'est-à-dire celle qui est élue, celle qui procède du suffrage universel direct, hein, les élus locaux, les élus nationaux, les élus européens, etc., de la conforter par des procédures juridiques dites de démocratie participative. Alors il y a un énorme quiproquo qui s'est mis en place, parce que beaucoup ont imaginé que la démocratie participative avait pour vocation de remplacer la démocratie représentative, ambition qu'elle n'a jamais eue. Mais enfin, quelquefois, les quiproquos sont alimentés par ceux qui se satisfont totalement de la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et ne souhaitent pas voir la démocratie participative prendre force et vigueur. C'est bien dommage. Ces formules de démocratie participative telles qu'organisées par le droit aujourd'hui dont je veux vous parler avec un tout petit moment de transition plus directement dédiée au plus grand nombre d'entre vous qui, si j'ai bien compris, sont des scientifiques. Alors, à l'heure actuelle, il y a des formes, en quelque sorte, installées de la démocratie participative organisée par le droit. Il y en a d'autres qui ne sont pas organisées réellement par le droit. Je pense aux conférences de citoyens, par exemple, une question extrêmement intéressante, mais je ne l'évoquerai pas ici. Hein. Je vais m'en tenir à celles qui ont un caractère d'obligatoriété, comme disent les juristes, sans beaucoup d'élégance dans les mots, d'ailleurs. Alors, à l'heure actuelle, il y en a essentiellement trois. Il y a une procédure dite de la concertation en droit de l'urbanisme. Une procédure dite de la concertation, je ne vais pas avoir la cruauté de vous renvoyer à l'article. Hein. Si vous souhaitez en savoir plus, vous venez me voir à la pause. Il y a, donc, la concertation du code de l'urbanisme. Peut-être encore plus connu, l'enquête publique du code de l'environnement. Et troisième modalité, le débat public également du code de l'environnement. Ces procédures ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Deux d'entre elles impliquent le public. Et le public, c'est le voisinage, mais il y a certaines actions qui ne concernent pas toujours un voisinage très étroit, peut-être un très large voisinage. Certaines d'entre elles vont intégrer le public dès les premières phases du projet ou de la politique qui est envisagée. Et ça, c'est bien. C'est en ceci que la concertation et le débat public s'oppose à l'enquête publique. Parce que l'enquête publique, elle, intervient tout à fait à l'issue de la procédure qui doit conduire à une décision administrative. Tout à fait à l'issue de la procédure où on convoque le public en lui demandant de donner son avis, son sentiment, en le sollicitant de formuler des contre-propositions. En l'espace de 3 semaines. Tout à fait à la fin de la procédure, c'est trop tard. C'est trop tard. Et beaucoup d'enquêtes publiques se résument à cette sorte de liturgie de l'Assemblée générale tumultueuse, où en général, c'est celui qui emporte la partie. C'est celui soit qui parle le plus fort, soit qui manie le mieux l'imparfait du subjonctif et qui fait taire tout le monde avec ses facilités rhétoriques. On est à des années-lumière d'un échange réel, d'un débat entre promoteurs, scientifiques, juristes et public ordinaire, et à nouveau, quand je dis public ordinaire, ça n'a rigoureusement aucune dimension dépréciative. Mais alors, pourtant, c'est l'enquête publique qui a la plus forte densité juridique. La concertation et le débat public n'ont pas une grande portée, n'ont pas beaucoup de conséquences juridiques. On peut déplorer. Le mieux, c'est quand on a affaire à une succession, concertation d'abord, enquête publique après. Parce qu'en réalité, ces deux procédures n'ont pas la même finalité par rapport à un projet, par rapport à une politique, etc. La concertation avec le public, dès le début de la procédure, vise en fait à tester, à échanger sur l'opportunité du projet. L'opportunité, c'est on en a besoin, on n'en a pas besoin, on le fait pas. Est-ce que c'est bien opportun ? Alors que l'enquête publique, à la fin, elle doit porter sur la faisabilité du projet, qui est un autre moment en bonne logique. s'il y a débat sur la faisabilité, il faut d'abord qu'il y ait une réponse positive à la question de l'opportunité. Oui, on en a besoin. Et le débat sur la faisabilité, lui, va porter sur ce dont on a besoin. Est-ce qu'on peut le faire là où c'est prévu ? Là où, je ne sais pas moi, il y a une zone Natura 2000, là où il y a un plan permanent, un plan de prévention des risques technologiques. On peut, c'est faisable ou ce n'est pas faisable ? Mais ce n'est pas du tout, c'est pas du tout la même, le même type d'interrogation. Sur ces questions de démocratie participative, tous les instruments juridiques sont là, sont présents. Je ne peux pas ne pas signaler une importante convention internationale, parce que là aussi, contrairement à la représentation qu'on a souvent, le droit international, dans le cadre du phénomène de mondialisation, il est de plus en plus fréquemment notre droit. Il nous concerne directement. Ça n'est plus comme au XIXe siècle où le droit international, pardonnez-moi, c'était l'affaire des chancelleries et des diplomates essentiellement. Hein. Aujourd'hui, il va nous concerner, nous parler, voire nous contraindre directement. Cette convention, c'est la convention dite d'Aarhus qui a été adoptée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU, des Nations Unies, qui a trois piliers, le droit à l'information, le droit à la participation et l'accès à la justice. Mais auparavant, il y avait eu le principe 10 de Rio, dont il a été, déclaration de Rio, conférence de Rio, dont il a été question ce matin, et ce principe 10 qui proclame la nécessité de mettre en place des procédures de participation du public. Signale en passant que l'année dernière, en juin, ben maintenant, quoi, exactement maintenant, c'était Rio plus 20, dont on ne peut pas dire que ça a été un véritable triomphe. Il faut quand même rappeler que les chefs d'État et de gouvernement ont solennellement, ils ont peut-être bien fait que ça de positif, ont solennellement réaffirmé les principes qui avaient été posés à Rio en 1992. Donc, si vous voulez, c'est un effet de solidification de ces principes. Et parmi ces principes, eh bien oui, il y a le principe de participation. On trouve aussi, pour la petite histoire, l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On ne peut pas faire de droit de l'environnement sans évoquer l'Union européenne. Certains auteurs, avec des règles à calcul, non, je ne sais pas très bien comment. Je ne vous garantis pas, mais beaucoup posent que 80%, alors c'est peut-être 85, c'est peut-être 75, c'est sur ça que porte l'incertitude, mais que 80% du droit interne, du droit français de l'environnement, c'est du droit de l'Union européenne transposé. Non pas parce que la Commission de la Communauté européenne a été touchée par la grâce environnementale, hein, c'est pas essentiellement ça. C'est tout simplement pour remplir sa mission dans le cadre de la garantie d'une concurrence claire et non faussée et loyale, et pour éviter le dumping environnemental. J'aime autant vous dire que les industriels auraient vite compris si en France, on avait une législation extrêmement sourcilleuse à l'égard des pollutions et nuisances, alors que, hypothèse d'école, je sais pas moi, en Belgique ou en Italie, eh ben c'était le laxisme qui dominait. Mettez-vous une seconde à la place d'un industriel, est-ce qu'il a vraiment envie de voir tous les trois mois un inspecteur du ministère de l'Industrie à ses portes pour prendre dans une éprouvette ses rejets et les analyser, ou est-ce qu'il n'a pas plutôt spontanément envie, on peut le comprendre, ce même inspecteur, de le voir environ une fois tous les 10 ans. Une fois tous les 10 ans, c'est à peu près ce qui se passe en France d'ailleurs, hein. Faut quand même le savoir. Et surtout, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, pendant les quelques minutes qui restent, la Charte française de l'environnement et son article 7. La Charte française de l'environnement et son article... Jusqu'à quelle heure ? Hein, ça va ? La Charte française de l'environnement, j'insiste beaucoup sur ce point, sa dénomination exacte, c'est Charte constitutionnelle de l'environnement, c'est-à-dire qu'en matière de hiérarchie des normes en droit interne, elle est logée dans la norme fondamentale qui est tout à fait au sommet de la pyramide normative. Ce point, vous allez le voir, est très important. Et avant d'en venir à l'examen précisément d'un certain nombre de novations contemporaines que je distingue donc des systèmes installés que je vous ai proposés il y a 30 secondes en mettant en relief leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs, je voudrais faire cette petite transition en forme de suggestion, compte tenu de la nécessité du droit de l'environnement à avoir recours à des scientifiques et de l'absolue nécessité aujourd'hui d'impliquer le public dans les procédures, soit pour enrichir la décision, selon certains, soit selon d'autres, pour obtenir l'acceptabilité par le public du projet. Beaucoup de points qui sont discutés ont une nature de caractère technique et scientifique. Beaucoup de points qui sont discutés dans les études, au moment des enquêtes publiques, au moment des débats publics, appellent, pour une part, des expertises de caractère scientifique. Expertises de caractère scientifique qui, dois-je le signaler au passage, ne sont pas spontanément et toujours congruentes. Vous trouvez des experts qui disent ça et des experts qui disent autre chose. Ben, c'est pour ça qu'il y a un champ politique du choix. Les débats portent très souvent les contestations, les controverses, porte très souvent sur des documents de procédure. Et parmi ces documents de procédure, il y en a deux sur lesquels je vais attirer votre attention. Pour toute une série de projets individuels ou de planification, il faut réaliser des études d'impact. Et pour un certain type d'activité, notamment des activités industrielles, qui sont des activités industrielles à risque, il faut également réaliser des études de danger. Alors, la finalité est pas la même. L'étude d'impact vise à mesurer et à éviter ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. L'étude d'impact est toujours une étude d'impact d'environnement. En revanche, l'étude de danger touche à la sécurité. En particulier du voisinage proche. Or, ces documents, dès l'instant où on a affaire à un projet de quelque importance, peuvent être regardés avant tout comme des expertises techniques extrêmement approfondies. C'est-à-dire que pour un projet de quelque importance, ayez la curiosité si... vous avez la possibilité d'aller en regarder une pendant les phases de consultation. Pour un projet de quelque importance, l'étude d'impact d'environnement, ça va rapidement être 3 ou 4 classeurs administratifs 21, 29, 7, remplis de données. Et je mets au défi quiconque d'être compétent dans tous les points qui sont abordés. Hein ? Vous allez avoir, par exemple, dans l'étude d'impact d'environnement, l'intervention d'hydrogéologues. Bon. Mais vous allez aussi avoir des interventions, des développements d'entomologistes, de naturalistes sur le scarabée pique-prune ou que sais-je encore. Pas possible qu'une seule personne puisse interpréter réellement un tel document. Bien. Et l'Union européenne avait eu une bonne idée, elle avait dit, consciente du caractère un petit peu fictif de ce type d'étude d'impact, elle avait imposé d'ajouter à l'étude d'impact ce qu'elle a appelé un résumé non technique. Un résumé non technique. Et consécutivement à l'accident d'AZF à Toulouse, vous vous souvenez sans doute, il y a quelques années, il y avait eu une grande agitation au niveau de l'État, et dans chaque région, les préfets avaient convoqué toutes les compétences pour discuter sur le point de savoir comment faire pour que ça n'arrive plus. Je me souviens que, bien sûr, en Limousin, le laboratoire que je dirige avait été convoqué, puis on avait proposé d'augmenter l'étude de danger également d'un résumé non technique. Il a fallu attendre un peu, mais il y a un arrêté ministériel qui l'a fait entrer dans le droit. Là aussi, pour les études de danger, il faut un résumé non technique de la lourde et technique étude qui constitue le document susceptible de trouver grâce aux yeux du juge. Parce qu'aux yeux du juge administratif, si vous ne produisez qu'une sorte de résumé non technique, hein, même légèrement augmenté, la sanction tombera pour insuffisance d'étude d'impact, annulation de l'autorisation. Ça, c'est extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent. Et je me demande s'il n'y a pas ici, non pas un métier nouveau, pour les scientifiques. Je ne crois pas à cette vision enchantée de création de métiers nouveaux, comme ça, mécaniquement, à travers les fausses bonnes idées. Je me demande s'il n'y a pas, pour beaucoup de scientifiques, l'hypothèse de l'apparition d'une compétence nouvelle qui pourrait être, je crois, appréciée par beaucoup, qui consisterait, chacun à partir de sa discipline, et les chimistes, et les physiciens, et les etc., etc., à apprendre, et croyez-moi, c'est pas simple, à être capable de passer d'un code d'expression réellement scientifique, et donc légitime aux yeux des pairs, à un code d'expression sincère, mais accessible, intelligible par le public. Vraiment, je me demande s'il n'y a pas là une compétence qui, par exemple, dans les curriculum vitae, pourrait faire ici ou là la différence. Et en même temps, je le dis très sincèrement, ça n'est vraiment pas simple, parce que je m'implique moi-même dans cette problématique. Quelquefois, rendre le droit aisément compréhensible, c'est un challenge, hein, c'est un défi, hein. Ben oui, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ressenti comme une nécessité démocratique. Il y aurait là, si vous voulez, comme un exercice d'explication cognitive qui permettrait au public d'acquérir un certain nombre d'éléments, non pas de devenir ingénieur en énergie nucléaire du jour au lendemain, hein, mais d'acquérir un certain nombre de compétences permettant un échange, une controverse saine. Alors, c'est d'autant plus important parce que les enjeux contemporains connaissent des processus d'accélération qu'on n'attendait pas nécessairement. Hein. Vous avez dit une bonne fois que je travaillais dans le cadre du groupement d'intérêt scientifique, décision, concertation, environnement. On a beaucoup réfléchi récemment, en dehors, bien entendu, de toute implication de caractère politique, sur ce qui est en train de se passer à propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Qui l'attendait réellement ? Qui attendait ? Ah, qu'il y ait des difficultés, tout le monde l'attendait. Hein. Qu'il y ait des difficultés, tout le monde l'attendait. Mais qui attendait réellement cette intensité dans l'opposition et cette durée dans l'opposition ? Personne. Et c'est quand même un petit peu embêtant dans un État démocratique de résoudre le problème en envoyant les gardes mobiles systématiquement, quoi. Ça finit par être un peu choquant. Alors, sur le fond, moi, je ne me prononce pas sur le point de savoir s'il faut un aéroport ou pas un aéroport à Nantes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre des discussions qu'on a eues au GIS, il y a une coordination qui vient de se créer qui est dédié à l'opposition aux grands projets inutiles. Et ils sont en train de faire leur liste des grands projets inutiles, hein, en matière de TGV, en matière de etc., etc. Et donc, d'une certaine manière, tout est à craindre. Hein. Très souvent, ce qu'ils mettent en cause, d'ailleurs, et on retrouve peut-être la dimension de la libre campagne d'Élisée Reclus. Ceux qui sont opposés aux grands projets inutiles sont vent debout contre ce qu'ils appellent la métropolisation. C'est-à-dire la vision de l'espace, de l'aménagement de l'espace, de ce qu'il faut pour l'espace, vu des métropoles, c'est-à-dire avec, de fait, même si quelquefois il y a de la participation à Libye, avec quand même, de fait, une grande indifférence à l'égard de ce que peuvent vouloir, souhaiter ou ne pas vouloir les quelques Gaulois qui restent dans les campagnes profondes. Alors, l'élément nouveau en matière de participation du public, il résulte de la loi Grenelle 2. Il résulte de la loi Grenelle 2 et d'un article 244 de la loi Grenelle 2 qui élargit considérablement le périmètre de la possibilité de participation du public. Tant il est vrai que jusque-là, les procédures de participation du public ne visaient que, en réalité, deux phénomènes. Les projets, des projets bien individualisés, je ne sais pas moi, créer une autoroute, mettre en place une usine chimique, enfin, vous voyez, des progrès bien. Ou alors des planifications. Un plan local d'urbanisme, par exemple, ou un schéma de cohérence territoriale, il faut une évaluation environnementale. Hein. Mais il y avait un étage du droit qui échappait totalement à toute intervention du public. C'était l'étage dit réglementaire des actes généraux, c'est-à-dire en France essentiellement des décrets. Or, beaucoup, le plus grand nombre, nous sommes dans un état de droit. Toutes les décisions prises sur des projets individuels ou sur des planifications sont prises sur le fondement de décrets généraux qui ont été adoptés auparavant. Ce n'est pas comme ça, au doigt mouillé, qu'on dit ben, le PLU, ça va, on adopte, etc. Non, non, il faut que ça soit conforme à l'article R, je ne sais quoi, du Code de l'urbanisme. Or, ces décrets d'acte réglementaire, pouvoir exécutif, n'était absolument pas soumis à participation du public. C'est une culture administrative, c'est une culture du service public. Il ne faut surtout pas imaginer qu'il en va de la même manière partout sur la planète. Dès 1994, nous avions eu l'occasion d'étudier de très près la façon dont ça se passait à cet égard aux États-Unis d'Amérique et au Canada, et donc aussi au Québec, où le principe de la participation du public à l'élaboration des actes réglementaires, des actes généraux, des décrets, était installé depuis 1945, et où il était considéré comme absolument indispensable dans un système qui se veut démocratique, que chacun puisse dire son mot. Hmm ? On avait fait un beau rapport, qui est financé par le ministère de l'Environnement en 1994, puis je vais vous annoncer bientôt qu'on a fait une deuxième étude, je vais finir par là, une deuxième recherche sur le même thème, et on a cité l'étude qu'on avait fait en 1994, s'était perdue dans un océan d'indifférence, hein, véritablement. Hein. Mais les gens ont dit, ah bon, vous aviez déjà fait ça en 1994. Les gens du ministère ont dit, bon, on va rechercher. Ils ont beaucoup cherché, et puis ils ont, au bout de 6 mois, ils nous ont avoué que notre recherche était perdue. Au ministère, c'est perdu. Peut-être qu'à un moment, il fallait un peu de place sur les étagères. Je sais pas, on peut tout imaginer. En tout cas, ils ne l'ont pas retrouvé. Hein. Bon. Cet article 244 de la loi Grenelle 2 modifie le code de l'urbanisme. Il introduit un article L120-1-2-3 maintenant. Et cette première modalité de participation du public à l'élaboration des actes réglementaires dans le domaine de l'environnement se réalise essentiellement avec l'instrument informatique. Vous pouvez le vérifier d'ailleurs, vous tapez ministre chargé de l'environnement, vous arrivez sur le site officiel, sur votre écran vous regardez en haut à droite, vous avez un onglet consultation publique, vous cliquez et là vous apprenez qu'il y a tel projet de décret, tel projet d'arrêté qui est en préparation. Voilà comment il se présente. Eh bien, braves gens, dites-nous ce que vous en pensez. C'est la philosophie générale. Hein. Moi, j'ai tendance à considérer qu'en matière de participation du public, c'est plutôt un progrès. C'est plutôt mieux. Alors, je rêve pas non plus. Pas tout le monde qui est intéressé partout. On peut pas imaginer que subitement, une effervescence générale va s'emparer de toute la population pour donner son avis sur le projet d'arrêté à propos de la protection, c'est un des derniers que j'ai regardé, du crapaud sonneur. Le crapaud sonneur, ça intéresse une catégorie particulière de passionnés, pas forcément tout le monde. Bon, en tout cas, ceci étant, la première mouture de la loi de 2010, Grenelle 2, était particulièrement insatisfaisante. Ça a été un coup de force. C'est dans la discussion parlementaire, un député qui est intéressé par ces questions de participation du public, et alors même que la loi se discutait en urgence, a introduit cette proposition, et dans un moment sans doute d'égarement, le gouvernement ne s'y est pas opposé. Ça a vraiment été un coup de force. Vous savez, la façon dont s'élabore la loi, on a quelquefois des surprises, hein. Et comme ça a été un coup de force, c'était pas pensé, c'était pas préparé, c'était pas mûri, c'était pas... Vous savez, quand on écrit du droit, c'est une des caractéristiques des juristes, ils pensent toujours au mal. Hein ? Quand on écrit du droit, il faut toujours avoir dans la tête l'idée, cette belle phrase que je suis en train d'écrire, comment est-ce qu'elle va faire l'objet d'une captation d'héritage par je ne sais qui va en faire le contraire de ce que je veux qu'il en soit fait. Non. Alors ça demande du temps. Et là, il n'y avait pas le temps. Donc, par surcroît, les services centraux du ministère étaient extrêmement hostiles à l'extension ainsi de la participation du public à tout le monde. Ils disaient, mais on fait participer, on a nos correspondants. Mais ouais, mais nos correspondants, même dans les associations environnementales, moi je fais confiance à France Nature Environnement. Mais ce n'est pas parce que je fais confiance à France Nature Environnement qu'ici ou là, je n'ai pas envie de dire mon mot à moi, qui peut être dissonant par rapport à celui de France Nature Environnement. Alors, l'administration était très très réservée hein, par rapport... Non. Et tout ceci a donné une première mouture, une première modalité vraiment très très décevante, des délais minimums intenables. Il y avait la possibilité d'organiser, par exemple, sur des projets de décrets qui avaient une densité technique, hein, une consultation publique en 15 jours. Si vous étiez intéressé, vous aviez intérêt à aller sur le site tous les jours, hein, pour 15 jours, paf, paf, vite fait, bien fait. C'est pas sérieux. Ça a pesé dans la mauvaise réception hein, de cette réforme. Cette question des délais. Une procédure, donc, qui était une procédure expéditive. Et puis nous étions en train de faire notre recherche, la deuxième recherche, sur la participation du public à l'élaboration des actes réglementaires financés par le ministère chargé de l'Environnement. Et on regardait de près ce qui se passait, on analysait. Et ce qu'on a eu à analyser, c'est une période où il y a eu multiplication de cette procédure dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un contentieux qui peut être un contentieux assez banal hein, et vraiment très local, c'est-à-dire devant un tribunal de grande instance ou devant un tribunal administratif, désormais et depuis peu, un plaideur a la possibilité de dire on arrête tout parce que moi je dis que telle disposition n'est pas conforme à la Constitution et qu'il faut demander son avis au Conseil constitutionnel. Bon, il y a un système de filtre, mais cette procédure de la question prioritaire de constitutionnalité est utilisée de plus en plus fréquemment avec parfois de beaux succès. Et tel a été le cas ici où le système de participation du public qui avait été introduit en 2010 a fait l'objet d'un tir de rafale de questions prioritaires de constitutionnalité, où systématiquement le Conseil constitutionnel annulait tel article du Code de l'urbanisme, annulait tel article du Code de l'environnement, pour défaut d'organisation de la participation du public telle qu'elle est fixée à l'article 7, de la charte constitutionnelle, donc de la norme supérieure. Ça devenait intenable, et le gouvernement a décidé qu'il fallait absolument modifier la loi qui prenait l'eau de toutes parts. Hein. D'où un projet de loi, fin 2012, pendant que nous achevions notre recherche exactement sur le même thème. Financé par le ministère de l'Environnement. C'est pas pour autant, d'ailleurs, il faut savoir, je trouve que c'est intéressant de savoir comment fonctionnent les administrations. C'est pas pour autant que les services centraux de la réglementation du ministère nous ont interrogés sur nos préconisations, alors même que d'une certaine façon, on était dans le même ministère. L'idée aurait pu leur venir, il me semble. Mais en tout cas, l'idée ne leur est pas venue. On n'était pas vraiment en colère parce qu'on s'en fichait un peu, puis on a dit, puisque c'est ça, on va participer à l'élaboration du projet de loi de modification de... Non. Et j'aime bien en parler, non pas dans je ne sais quel but narcissique, mais pour essayer de démontrer que ces procédures-là, quelquefois, ça marche. Ça marche jamais à 100%, mais en même temps, il faudrait être vraiment très sûr de soi pour être persuadé qu'on a toujours raison sur tout. Hein ? Ce qui fait qu'on a envoyé toutes nos préconisations, et pour une bonne part, la loi du 27 décembre 2012, qui est la loi actuellement applicable, a repris nos préconisations. On n'a pas gagné grand-chose sur les délais minimum. passer de 15 jours à 3 semaines. Bon, pas un triomphe, hein. Mais la résistance de l'administration en France est quelque chose de terrible, hein. Au niveau de cette même procédure dans l'Union européenne, le délai minimal de consultation pour ce qu'on appelle la législation dérivée, c'est-à-dire les directives, les règlements, les décisions, c'est 12 semaines, le délai minimal. Pourquoi est-ce que ce qui est possible à Bruxelles cesse de l'être à Paris ? La maître a bien compris. Enfin, de 3 à 12, c'est un rapport 4, hein, quand même, ça fait du temps. 12 semaines, ça laisse vraiment le temps de prendre des conseils, de participer intelligemment. Alors que 15 jours, ça avait produit des phénomènes qui sont aux antipodes de la démocratie participative. Je me souviens du décret sur l'affichage publicitaire, où une association avait envoyé une pétition signé par 3000 personnes. Mais ce n'est pas ça la démocratie participative, ce n'est pas une pétition signée par... C'est un échange. Encore faut-il avoir affaire à des gens qui veuillent sincèrement échanger. Oui. Alors, aujourd'hui, les délais ont un petit peu augmenté. Nous avons obtenu aussi le maintien de la possibilité de consultation papier dans le cadre de la lutte contre un peu la prise en considération plutôt de la fracture numérique encore pour quelques années. Ça n'est pas une disposition qui est destinée à durer, mais enfin, on est dans une période de transition. Très important, nous avons obtenu qu'en matière environnementale, à l'issue de la participation, les décrets adoptés devraient être motivés. Les motifs, ce n'est pas les visas. Vous savez tous qu'un acte juridique, il est précédé par vu la Constitution, vu la loi machin, vu le etc., etc. Non, les motifs, c'est l'explication accessible à tous des raisons pour lesquelles l'article 4 dit ce qu'il dit. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais ça, c'est de la démocratie participative, telle que d'ailleurs, elle est pratiquée par l'Union européenne depuis 1957. Ayez la curiosité d'aller voir une directive, un règlement, une recommandation même. Et vous verrez qu'avant article 1, article 2, vous avez quelquefois plus de 10 pages de motivation, et beaucoup parmi les scientifiques que vous êtes pourront être intéressés par les mentions qui sont faites de tel protocole d'analyse qui a été choisi plutôt que tel autre protocole d'analyse, etc., etc. On explique, on n'en vient pas directement à l'aspect normatif, article 1, article 2. Ça, c'est obtenu, et très franchement, ce n'est pas rien. Pour conclure, il faut dire que notre effort dans ces domaines, il s'applique à l'environnement, il s'applique à l'urbanisme, mais il a pour vision, pour perspective, pour horizon poursuivi, la question de la démocratie au XXIe siècle. C'est ce qui fonde notre investissement, avec une hypothèse de travail qui est presque de l'ordre de l'évidence, à savoir qu'aujourd'hui, de manière à peu près générale, ce qui a disparu dans les rapports entre citoyens, institutions, etc., c'est ce qu'on appelle la confiance. Il y avait l'abbé Sieyès, qui avait été l'éducateur politique de Bonaparte avant qu'il ne devienne Napoléon, qui lui avait dit cette phrase: le pouvoir vient d'en haut et la confiance vient d'en bas. Ben ouais, mais maintenant ça ne marche plus. Ça, c'était peut-être possible au XIXe siècle, dans une société. On sortait d'une période chaude, c'était la révolution de 1789, mais d'un point de vue social, une société beaucoup plus froide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et voudrais mentionner en tant que fondement encore de notre recherche, Platon. Platon qui ne fait pas partie des philosophes que j'apprécie le plus, mais qui a au moins de mon point de vue une bonne idée. Il avait préconisé que les lois, alors je reprends son vocabulaire, alors les lois au sens large, tout le droit contraignant, soit précédé, disait-il, par une sorte de prélude musical. Alors qu'est-ce que c'était que ce prélude musical ? Ben, il disait, faut expliquer aux gens pourquoi il y a le droit. Il faut leur expliquer de manière à ce qu'ils comprennent, etc. C'est exactement ce dont je viens de vous parler en matière de motivation, c'est rien d'autre. Aujourd'hui, c'est plus technique, on dirait pas prélude musical au décret, etc., etc. Aujourd'hui, on dit motivation. Mais l'idée est strictement la même. Et en fait, pour finir vraiment, cette idée de démocratie, depuis toujours, elle résulte du respect d'une double exigence qui est posée dès les Grecs. C'est d'une part l'isonomie, l'isonomia, la même règle pour tout le monde, c'est le principe d'égalité, mais aussi, on l'oublie beaucoup, l'iségoria. L'iségoria, c'est le droit pour chacun de faire entendre sa voix, ce qui ne veut pas dire qu'il va triompher toujours. Mais qu'on prenne garde aux situations où aujourd'hui, certains ont le sentiment que leur voix ne compte pas. Je vous remercie.
Merci, voilà, vous avez eu un exemple de ce qu'est la science et le droit. Merci beaucoup, monsieur Monodière. Vous avez parlé de sujets qui sont chers au cœur de l'espace Mendès France.
Dire
la mise en culture de la science, comme l'a dit Lévi Leblond, et la façon aussi de tenir compte du public, puisqu'on organise beaucoup de débats. Et c'était vraiment très passionnant. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions ? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des problèmes justement juridiques par rapport dans votre travail ?
Bonjour, Pierrick de Vaucou, CNRS de Chuisé. Je travaille en biologie de la conservation et moi j'ai une question un petit peu par rapport à notre obligation à nous, scientifiques, puisque c'est le public que vous avez aujourd'hui. Vous avez beaucoup parlé de consultation du public. Pour revenir un petit peu plus loin par rapport à ce qui a été dit, c'était très intéressant d'avoir un point de vue environnemental et un point de vue, je dirais, de droit sur les questions qu'on a évoquées, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'économie ne tenait pas compte, a priori, de l'écologie, elle tenait compte uniquement des coûts. À mon sens, une des réponses pour que l'écologie puisse être prise en compte dans l'économie, c'est l'appareil législatif. Quand on a travaillé avec des BTP, etc., ce genre de public là, les seuls ils font pas beaucoup d'altruisme environnemental, on va dire, ils ont juste respecté les réglementations le mieux possible, on l'espère. Donc une des réponses, c'est le droit, et justement dans tout ce processus décisionnel qu'on vient de dire, vous avez beaucoup évoqué tout ce qui était la participation du public, mais la participation des scientifiques, le travail qu'on peut amener là-dedans, comment il peut s'inclure. A priori, on a l'impression que dans tout le processus décisionnel, il y a un petit peu du dire d'expert, un petit peu participation à certains moments dans l'élaboration des textes, mais on n'a pas la sensation qu'il y ait une intervention à tous les niveaux, au moment de la rédaction des textes, au moment de la rédaction des arrêtés, et une participation active. Est-ce qu'il y a dans l'environnement quelque chose en place, enfin dans le droit de l'environnement et dans le droit en général, quelque chose qui est en place actuellement à tous ces niveaux-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait arriver ?
Oui, votre question est très intéressante. Dans la pratique française, lorsqu'on a besoin de scientifiques au stade de l'élaboration des textes, mon impression est la suivante. Les services du ministère ont en quelque sorte leur, je sais pas comment le dire, leur correspondant privilégié, en quelque sorte des groupes d'experts ou des labos scientifiques avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, et spontanément c'est vers eux qu'ils vont. Ce qui fait que certains peuvent très légitimement se sentir frustrés parce que, je crois que j'avais pris soin de le signaler, il n'est pas choquant que deux expertises scientifiques n'aboutissent pas au même résultat. C'est pas choquant du tout. Bon. Alors, il y a un petit espoir du côté de l'Union européenne et notamment d'un organe de l'Union européenne qui s'appelle le médiateur européen. Je demande une petite explication. Le médiateur européen est chargé de vérifier que toutes les institutions de l'Union européenne mettent bien en place une bonne administration. Alors, l'expression peut faire sourire, une bonne administration, mais cette bonne administration, elle est fondée sur un code de bonne administration qui existe. Alors, jusque-là, les questions environnementales traitées par le médiateur tournaient tout autour du droit à l'information. C'est-à-dire que les gens voulaient savoir beaucoup plus que, par exemple, la commission n'était disposée à lâcher en termes d'information. Et le médiateur disait, est-ce qu'il y a eu bonne administration ou est-ce qu'il n'y a pas eu bonne administration? Vous savez, l'Union européenne, là aussi, a un vocabulaire juridique qui lui est un petit peu propre. Hein, c'est pas le même que celui auquel on est accoutumé. En France. Et récemment, il y a eu une affaire très très intéressante qui touche à la question de l'expertise scientifique qui a été traitée par le médiateur. Il s'agissait des expérimentations sur les grands singes. Et bon, moi, ce que j'ai toujours entendu dire depuis mon ignorance, c'est que le patrimoine génétique des grands singes et le nôtre, c'était quasiment le même à peanuts près, quoi. Hein. Donc, d'une certaine façon, ça peut poser problème à certains, et notamment aux associations qui vouent leur action à la défense des animaux. L'association qui, quelquefois, d'ailleurs, de mon point de vue, y vont un peu fort. Mais enfin, toujours pareil, il y a plusieurs associations. Il faut éviter des montées en généralité trop rapides. Alors, d'autre part, l'expérimentation animale, j'ai un peu le sentiment qu'on est prêt, quitte à verser une larme, à y consentir lorsque ce qui est en cause, c'est la santé humaine. En revanche, lorsqu'il s'agit de pratiquer l'expérimentation animale qui fait souffrir hein, les animaux et qui peut conduire à leur mort, d'ailleurs, ben justement, c'est aussi pour voir si le procédé fait mourir ou pas. Lorsque ces expérimentations animales sont menées pour mettre au point des cosmétiques, non, là, ça paraît quand même plus... Non. Alors, l'association se plaignait de quoi ? Auprès du médiateur. Elle disait, on a produit, nous, des rapports d'expertise en tant qu'association. C'est-à-dire qu'ils avaient dû réunir assez d'argent pour payer un labo qui avait cherché, etc. On n'a pas du tout la certitude que nos rapports d'expertise ont été réellement examinés par le comité scientifique compétent dans cette affaire. Et deuxièmement, monsieur le médiateur, on voudrait que la commission nous dise selon quels critères elle a choisi les experts scientifiques qu'elle a mis dans ce comité, c'est-à-dire les experts scientifiques officiels. Et la réponse du médiateur a été absolument cinglante, puisqu'il a enjoint à la commission de faire la preuve que les rapports d'expertise scientifique venant de ce qu'on appelle quelquefois la société civile, c'est-à-dire cette assoce de défense des animaux, avaient bien été pris en considération, mais d'en faire la preuve. Hein. Pas d'écrire « oui, oui, on les a lus ». Montrer que si on n'a pas retenu leurs préconisations, c'est pour telle raison, telle raison, telle raison. Argumenter, motiver, toujours la même chose. Et deuxièmement, le même médiateur a exigé de la commission qu'il lui fasse connaître ses critères de choix des experts qu'elle avait retenus, des experts officiels, faute de quoi, ajoutait-il, il y aurait mauvaise administration. Donc vous voyez que cette expression qui, de prime abord, peut presque faire sourire, la bonne administration, la mauvaise administration, ça fait penser à Courteline, à Kafka et tout, en réalité, ça peut avoir des conséquences absolument sismiques. Parce que là, ce qui est en cause, c'est le pouvoir d'expert, et c'est surtout, vous en avez tous entendu parler, des prises d'intérêt. Des intérêts détenus par tel expert dans tel labo pharmaceutique dont il va examiner l'autorisation de mise sur le marché de tels médicaments nouveaux et révolutionnaires, etc., etc. Peut-être pas complètement répondu à votre question, mais voilà une question, en tout cas, qui touche, pour certains d'entre vous, en tout cas, à vos métiers futurs.
Avoir très peu de temps. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Vous pourrez bien sûr parler avec M. Monédière au déjeuner. Non. Merci bien. Beaucoup, monsieur, en tout cas. Merci. À tout à l'heure. On recommence à 14h30. Le déjeuner est en face. Merci de votre écoute. À tout à l'heure. Et là, et...